autre conférence un petit peu sur le thème de l'animation ce soir. Donc on était l'an dernier déjà avec le thème de la thérapie, donc littérature orale et thérapie. Ce soir on est sur littérature orale et animation. La prochaine je crois qu'on est sur littérature orale et anthropologie. Donc vous l'avez compris, on fait un peu un tour des applications possibles de la littérature orale dans le monde contemporain et dans des applications de métier ou de direction, en tous les cas possibles, utilisables dans cet espace-là. Donc déjà la notion d'animation, c'est-à-dire qu'on va peut-être moins être sûr qu'on est d'accord sur le principe de qu'est-ce que c'est que l'animation, et sur on va parler du cinéma d'animation, on va parler donc des animateurs, du métier d'animateur. Donc dans l'animation, il y a quelque chose qui est de mettre en énergie un groupe, mettre en mouvement, mettre en dynamique un groupe, hein, et c'est extrêmement important, mais le problème d'un groupe, c'est que quand on l'a mis en dynamique, il faut le gérer aussi. Donc je crois que le travail d'animateur, pour moi, c'est un travail très important, qui peut-être aujourd'hui n'est pas considéré à sa juste valeur, mais qui est extrêmement nécessaire dans tout ce qui est régulation du système social. C'est tout ce que ne peut pas faire l'enseignement, c'est tout ce que peut pas faire l'éducation des parents. On leur demande beaucoup de choses aux animateurs, hein, souvent d'être dans l'urgence, de répondre à des besoins sans toujours avoir la capacité de temps pour monter de vrais projets, mais on va essayer de voir comment la littérature orale peut être un outil, en tous les cas, pour eux. Ça bloque. Si je suis comme ça, c'est bon. Hein. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Donc, au niveau de l'animation, je pense qu'il y a un terme qui est toujours souvent ajouté à la notion d'animation, c'est l'animation socio-culturelle. Il y en a beaucoup d'autres, on va essayer de voir, mais c'est celle qui a souvent été la plus pratiquée pendant longtemps. Donc on est souvent dans la notion d'animation sur en plus des populations extrêmement diverses. L'animateur peut travailler avec des jeunes enfants comme il peut travailler avec des personnes du troisième âge. Donc on est quand même dans un champ extrêmement large. En général, les groupes qu'il va avoir sont des groupes qui sont divers aussi au niveau social, voire même divers au niveau culturel. C'est cette globalité qu'il a à prendre en charge. Il doit avoir des compétences relativement importantes, puisque le cadre de l'animation est un cadre extrêmement régi aussi légalement. Donc il y a aussi des compétences légales à avoir. On ne peut pas s'occuper de jeunes enfants hors règles, hors normes. Donc il y a des espaces qui sont extrêmement importants à bien connaître. Alors je ne vais pas vous parler de tout ce qui est le côté animation, parce que vous connaissez peut-être pour certains mieux que moi. Moi je vais essayer de voir un petit peu ce qu'on peut engager comme réflexion autour de l'animation et la littérature orale. Donc la littérature orale, c'est les mythes, les épopées, les contes, les fables, les chants, etc. C'est tout un panel de possibles récits, on va dire, c'est du narratif. Et comment ce narratif peut nous aider éventuellement à mettre en animation des groupes. Alors je crois que déjà il y a un élément qui va être important dans tout ça, c'est que c'est un élément qui est celui de la parole. C'est-à-dire que dans la notion de la littérature orale, il y a quelque chose qui est de la notion d'oralité. C'est-à-dire l'animateur est quelqu'un qui travaille beaucoup avec sa langue, en fait, avec beaucoup avec sa parole, qui est toujours en train de réguler, qui est toujours en train de prendre contact, qui est toujours en train d'écouter, qui est toujours en train de formuler, de cadrer. Donc la parole est déjà un objet extrêmement important. Et en même temps, il sollicite la parole de l'autre aussi en face dans le groupe. Donc dans ces ensembles de récits, il y a quand même quelque chose qui est important à retenir, c'est un art de la parole. Et donc déjà là, ne serait-ce que dans la littérature orale, ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est une parole qui veut faire œuvre, il y a obligatoirement quelque chose qui est de l'ordre d'une parole spécifique et bien cadrée. Alors on va peut-être partir un petit peu, comme je le fais souvent dans ces notions d'application, des différents genres possibles. Alors le mythe, qu'on a déjà vu souvent ici, on l'a bien défini. Alors le mythe, comment on peut s'en servir en animation? C'est quand même quelque chose d'assez assez titanesque, puisque c'est quand même des choses qui nourrissent tout le transcendant, qui nourrissent un petit peu tout ce qui est impalpable, intouchable. Mais c'est aussi quelque chose qui nourrit notre imaginaire extrêmement fortement, puisque si on veut par exemple trouver l'origine des lutins, l'origine des elfes, l'origine des fées, des dragons, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller revisiter les mythes. La plupart de ces objets sont nés dans la mythologie. Donc ça veut dire que déjà là, on a des sources extrêmement importantes de mythologie, mais en même temps aussi de on va dire, de micro-outils possibles dans l'imaginaire des enfants, voire des adultes. Et on y viendra dans les applications. Alors, j'essaierai de vous donner quelques exemples d'applications comme ça au fur et à mesure, avec des gens qui ont fait des formations chez nous, qui sont aujourd'hui animateurs, ou des animateurs avec qui j'ai pu monter des projets. Bon, c'est évident qu'il y a déjà la première chose, c'est on avait travaillé avec quelqu'un qui travaillait beaucoup la céramique, la terre, et qui avait travaillé complètement tout un paysage mythologique en façonnant des personnages des mythologies multiples. Donc on arrivait à avoir comme ça aussi, ne serait-ce que dans le modelage, les grandes figures, les grands stéréotypes de la mythologie, et ça permettait de monter des scénographies, en fin de compte, non pas sur une table, mais dans un espace. C'est-à-dire comment, quelquefois, l'espace, on reviendra à cette notion de spatialité et de l'imaginaire, comment l'espace peut être support, en même temps, à ces figures. On va retrouver, par exemple, quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Yvan Levasseur, qui a beaucoup travaillé, parce qu'il crée avec les enfants des instrumentariums. C'est-à-dire qu'il va créer, par exemple, avec de la terre, des animaux, des dragons, des personnages de la mythologie, mais qui deviennent instruments. Et donc ces instruments peuvent devenir aussi objets, bien sûr, d'animation, mais c'est donc une double, triple animation. On peut avoir un mythe qu'on va prendre comme référence, on va créer les objets avec le potier, ou avec celui qui peut le faire, et en plus, comme c'est des instruments, on peut créer des scènes avec. Hein. On va avoir des possibilités avec la mythologie dans les randonnées. Et ça, je vous en reparlerai un peu plus tard avec le légendaire. Mais dans les randonnées, la plupart des plantes sont pourvoyeuses de mythes. Hein. Et donc là aussi, il y a des éléments extrêmement puissants qu'on peut repérer et qu'on peut mettre en valeur. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup d'animateurs qui se chargent aussi de cette sensibilisation à l'environnement. Hein. Et là, il y a vraiment des sources extrêmement importantes. Ensuite, je dirais que dans le mythe, il y a un outil qui peut être intéressant au niveau de la régulation. Par exemple, au niveau des adolescents, énormément de leurs problématiques intérieures, on en a vu la dernière fois en thérapie, sont exposées dans le mythe, mais de façon distanciée. C'est-à-dire que c'est jamais posé comme étant quelque chose de très clair, mais c'est quelque chose qui donne des clés inconscientes à leurs problématiques. Donc, de travailler sur le mythe, on peut être aussi là, en train de travailler sur des formes relativement régulatrices dans le travail avec les ados. Voilà. Je ne vous parlerai pas de tout ce qui est jeu de rôle, que vous connaissez sûrement très bien, où, bien sûr, les sources sont la plupart du temps basées sur la mythologie. Hein. Les seuls moments où on a vu des étudiants de l'école des mines chez nous, c'est quand ils venaient chercher, quand il y avait un club de jeu de rôle, qu'ils venaient chercher de la nourriture pour les jeux de rôle. Hein. Voilà donc pour le mythe. Je vais passer l'épopée, parce que l'épopée est un genre très difficile à mettre en animation. C'est beaucoup trop conséquent et beaucoup trop textuel. Hein, donc là, c'est extrêmement difficile. Par contre, je vais très vite glisser sur la notion de la légende. La légende, on la connaît relativement mal, mais la légende, je dirais que c'est quelque chose qui est extrêmement rattaché à la notion du territoire. Hein, pour bien connaître un territoire, c'est connaître son légendaire. Donc on va pouvoir travailler, par exemple, sur une intelligence du territoire. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on n'est plus dans une culture populaire, par exemple, qui donne du sens au territoire. Hein. C'est-à-dire que la plupart du temps, le territoire, c'est des objets neutres, c'est des objets sans contenu. C'est des contenants sans contenu. Alors quand on parle de légende, il n'y a pas que les légendes ancestrales. Il y a aussi toutes les légendes contemporaines qui peuvent être des sources extrêmement intéressantes au niveau de l'animation, et je vous parlerai de quelques expériences. Au niveau du légendaire, pareil, énormément de choses sur le légendaire végétal, hein, sur le légendaire animal. Beaucoup d'animaux sont porteurs de légendes, comme ça, qui sont tout à fait intéressantes. Il y a aussi quelque chose qui peut être très intéressant, c'est donc la découverte toponymique. La plupart des légendes permettent de mettre du sens à des noms. Vous avez des lieux dans le coin qui s'appellent Mal à taverne, Val mal, hein, donc la mauvaise taverne, le mauvais Val. Et la plupart du temps, vous avez derrière une légende qui va avec. Donc on peut rester sur le nom, mais on peut aussi rester sur l'espace. Mal à taverne, par exemple, c'est tout bête. C'est un endroit où, quand il y avait les crues à l'époque, la taverne là, le relais de poste qu'il y avait dans ce village était noyé systématiquement. Donc c'était devenu la mauvaise taverne. les Valmals avaient souvent des histoires de diables qui viennent détruire les récoltes avant qu'elles soient récoltées elles-mêmes. Hein. Voilà. Donc vous avez la plupart du temps énormément de clés comme ça qui vous permettent dans l'espace toponymique de tous ces noms de donner du sens. Et à partir de là, on peut faire de très beaux parcours en animation. Quand on connaît un petit peu le paysage, quand on commence à connaître un petit peu la région, quand on s'y intéresse, on peut vraiment redonner vraiment une intelligence du territoire à partir du légendaire. Hein. Avec le légendaire, il y a aussi des choses très intéressantes. C'est tout ce qui est de l'ordre du légendaire fantastique. C'est-à-dire toutes ces légendes qui sont là pour faire peur. Hein, les légendes de fantômes, les légendes de cimetières. Mais en même temps, ce qui est intéressant derrière toutes ces peurs-là, c'est qu'en même temps, c'est des légendes qui ont tendance à nous amener dans la transgression. C'est-à-dire que dans toutes ces légendaires fantastiques, la plupart du temps, à l'inverse du merveilleux, la légende essaye de ramener ce qui est merveilleux dans la réalité. C'est-à-dire qu'on ne sait plus si c'est réalité ou merveille. Le merveilleux, il est clair, c'est du merveilleux. Mais la légende, on est dans la confusion. Hein. Et la plupart du temps, les conteurs profitaient de ce moment-là pour faire des ruptures avec le normatif. C'est dans ces légendes qu'on va aller déterrer un mort pour récupérer un foie. C'est dans ces légendes qu'on va aller couper la jambe d'un cadavre pour... C'est dans ces légendes qu'on va retrouver aussi dans les fonds de puits des êtres fantastiques qui nous attirent. Hein. Voilà. Donc on est vraiment dans des endroits où on est dans la foi, dans la transgression, dans la régulation, donc en même temps dans la réflexion sur la transgression, et en même temps sur le plaisir de se faire peur. Hein, je crois qu'il y a aussi ce grand plaisir pour les enfants d'aller vers la peur et de jouer à se faire peur. Donc au niveau de tout ça, je pourrais dire qu'on pourrait faire des parcours, par exemple, largement intéressants au niveau de tout ce qui est des routes de légende. On peut repérer un territoire relativement élargi en se baladant, en repérant toutes les légendes. Hein. Légenda, à l'époque, c'est ce qui devait être lu, mais en réalité, les légendes orales donnent du sens à des objets, créent une cartographie avec du sens sur un territoire. Ensuite, il y a les contes. La littérature orale, souvent, le conte est devenu un peu générique de tout ça. Hein. Donc la légende, la différence avec le conte, je le répète encore une fois, c'est que c'est de la fiction, mais qui se rattache à un objet réel. C'est-à-dire que s'il y a une légende d'un pont du diable, on sait où est le pont du diable. S'il y a une légende de la grotte des fées, on sait où est la grotte des fées. Hein. Donc l'objet dont la légende parle est concret, repérable, il existe. Hein. Le conte, par définition, est dans un espace hors temps, hors lieu. C'est-à-dire que là, dans le conte, après, on n'a plus de repères temporels. Donc on est dans l'imaginaire, on est en relation avec l'inconscient, directement. Hein. Alors, en quoi le conte peut être intéressant en animation? Et les contes sont multiples, on l'a déjà vu souvent ici. Alors, je vais peut-être prendre le premier, qui est le conte de sagesse. Les contes de sagesse, c'est intéressant parce qu'ils nous obligent à réfléchir sur certaines choses sans être obligatoirement moralistes. Alors qu'on sait très bien que dans la régulation, justement, de groupe, la plupart du temps, dès qu'on est dans le côté moral, dès qu'on est donné la consigne qui peut blesser... ça peut redevenir boomerang, hein, ça fait aller-retour. Donc en animation, ça peut être intéressant de raconter à propos sans être dans l'espace moral. Hein. Donc le conte en lui-même, si vous voulez, on reviendra après sur des exemples plus concrets. Déjà, le conte de sagesse, il est à ce niveau-là. Hein. On a souvent traité ici de ce conte sur la parole, hein, quelqu'un qui parle trop vite, qui parle trop fort, on a quelqu'un dans le groupe qui est un petit peu trop dans le déni, on va dire, ou dans l'emballement à chaque fois qu'il y a une parole, on lui dit, bon, ben une fois, il y avait un pêcheur sur une plage qui rencontre un jour un crâne, il demande au crâne, qui c'est qui t'a amené là, hein, et le crâne lui dit la parole. Ah ben, il lui dit, bon, il est tellement content d'avoir un crâne qui dit que c'est la parole qui l'a amené là, qu'il va voir le chef. Le chef lui dit, d'accord, moi, je viens venir voir ton crâne, mais tu connais la règle. Celui qui, quelque part, ment chez nous, on lui coupe la tête. Ben, il revient avec le chef près du crâne, il se penche près du crâne et il redemande au crâne, « Dis crâne, qui c'est qui t'a amené là ?» Et le crâne, rien. Deux fois, trois fois, rien. Le chef coupe la tête de celui qui est, bien sûr, amené jusque-là. La tête roule près du crâne, le chef s'en va. Et quand le chef est assez loin pour y entendre, le crâne se retourne vers la tête et lui dit, « Dis tête, qui c'est qui t'a amené là ?» La parole. En général, on ne raconte pas à celui qui est en cause, on raconte à celui qui ne l'est pas. Mais c'est un espace qui va mettre en réflexion, c'est-à-dire que tous ces contes-là sont des contes qui ne sont pas faits pour être moraux. Le conte n'est jamais moral en soi, il n'y a que la fable qui peut l'être. Le conte est là pour poser une question. Voilà. Donc ce qui est intéressant dans les contes de sagesse, qu'on est dans une dynamique du questionnement sur le moral, sur le comportement, mais on n'est jamais dans la morale elle-même. Il n'y a pas grand-chose de morale dans la plupart de ces contes. Hein. Ensuite, vous avez les contes facétieux qui sont extrêmement intéressants. Je dirais plus pour l'animateur que pour le groupe peut-être. Hein. Mais demander à des enfants de raconter des blagues, qu'est-ce qu'ils vont choisir la plupart du temps? C'est les blagues les plus limites avec l'espace normatif qui est le leur. Hein. C'est-à-dire que quand on raconte du facétieux, quand on rit toujours d'un espace limite de transgression. Qu'est-ce qui nous fait rire? C'est quand on se casse la figure. C'est quand on va dans ce qui ne va pas. Et tout le monde se met à rire parce qu'on est d'accord pour que ça soit là. D'accord? Si on ne rit plus, ah, il y a un problème, c'est qu'on ne partage pas les mêmes codes, on ne partage pas les mêmes normes. Donc intéressant, si vous avez un jeu dans les espaces du facétieux, de savoir où se situe le groupe. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à côté, pas à côté? Est-ce que tout le monde est bien en résonance sur les mêmes choses? Vous-même proposez des contes facétieux, et vous allez voir qu'il y a des gens qui ne rient pas, ça devient problématique. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas, ils ne connaissent pas les codes, ils ne connaissent pas les normatifs du groupe. Hein, ils ne respecteront peut-être pas, du coup. Hein, donc il y a peut-être des choses à expliciter. Autre conte, les contes étiologiques, les contes qui expliquent le pourquoi les choses sont comme ça. Très bon conte d'observation. Baladez-vous en nature avec ces contes-là, et vous allez voir que ça vous permet de voir dans le détail comment sont les choses. Hein. Je répète encore un conte que j'ai beaucoup répété. Un jour, un merle voit une pie qui se pose sur un arbre juste en face, avec des bijoux, avec de l'or. Et la pie, lui, elle range ça dans son nid. Le merle, qui à l'époque n'était pas noir, jaune, mais était tout blanc, lui dit, mais où tu as trouvé ça? Et la pie lui dit, oh, c'est pas compliqué, tu as une grotte un peu plus loin. Tu vas y aller, il n'y a pas de problème, tu verras, tu rentres. Seul problème, c'est que s'il y en a un, quand même, il ne faut pas faire trop de bruit. Parce qu'il y a une espèce de dragon qui est dans le coin. Si tu le réveilles, tu vas te faire carrément carboniser. Hein. Et le merle parle dans cette grotte, il passe devant le dragon, fait très attention. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, il va le réveiller, le dragon va lui jeter du feu, il va devenir tout noir. À l'époque, il était tout blanc. Il a tellement peur qu'il trempe son bec dans un lac qui était rempli d'or. Et depuis ce temps-là, ben, c'est pas compliqué, les merles sont noirs avec un bec jaune. Voilà. C'est une histoire toute bête, qui n'a pas de prétention à dire la vérité, mais qui oblige à regarder l'animal d'une certaine façon. Hein. Ça permet d'introduire, en tous les cas, certaines clés. Et il y en a des quantités comme ça pour tous les animaux, pour toutes les formes. Hein. Donc avec le conte, je dirais qu'on est déjà dans un espace qui est fait pour le conte et fait pour ça. C'était un objet d'éducation. C'est un objet de regard des sociétés sans tradition d'écriture. Il fallait bien faire en sorte que les gens aient une connaissance commune. Hein. Donc tous ces récits sont fondés pour ça, pour transmettre cette connaissance commune. Il y a aussi quelque chose qui est très important dans le conte, c'est que c'est un objet de transmission. C'est-à-dire que c'est un objet qui est extrêmement important pour les animateurs, puisque c'est un objet qui peut se mémoriser, s'il est bien travaillé préalablement, sur une seule écoute. Ça peut être des récits relativement longs, mais si on ne les dilate pas trop et qu'on ne donne qu'une structure, dans l'affaire d'une première écoute, la mémoire peut être suffisamment habile pour le saisir. Donc ce n'est pas des histoires qu'on oublie. Si le conte a été bien donné, c'est un support intéressant pour travailler. Donc je dirais qu'en animation, il y a un objet qui est très intéressant, c'est de construire une veillée conte. C'est construire une veillée conte, mais non pas avec des conteurs, mais avec les gens qui sont là. C'est-à-dire comment, quelque part, on peut distribuer des trames, on peut distribuer des bouts, en demandant aux gens de commencer à préparer quelque chose, et on a du coup aussi un travail d'expression artistique. On peut avoir un temps dans lequel on va travailler tous les soirs à essayer de poser comme ça ces contes-là, de manière à arriver au bout à quelque chose. Ce qui est intéressant encore avec ce sujet, c'est que les contes nous touchent psychologiquement. Et que chaque fois qu'on travaille un conte, ce n'est pas celui qui écoute qui est le plus touché, c'est celui qui le raconte. Hein. Et donc là, je peux vous dire que ça fait faire du chemin aussi à quelqu'un qui essaye de porter ça et qui essaye de le restituer. On est obligatoirement en travail intérieur dès qu'on veut énoncer une histoire un peu solide. Hein. Donc c'est aussi un champ très régulateur parce que ça nous oblige à faire ce travail intérieur. Le conte est un outil fabuleux sur l'interculturalité. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui arrivent de différentes communautés, en animation c'est souvent le cas aujourd'hui, c'est comment valoriser toutes ces communautés, comment être, ne pas être dans l'ethnocentrisme. Alors très intéressant, c'est que les contes sont objets de multiples variantes. C'est-à-dire que vous avez des contes, par exemple le conte de Cendrillon, il y a 2800 versions recensées dans le monde, qui sont toutes légèrement différentes, mais qui racontent tous la même histoire. D'accord ? Donc ça veut dire que si chacun peut raconter une version relative à son ancrage culturel, il va mettre en valeur sa culture tout en étant dans une relation avec l'autre culture. Donc on est bien avec cet espace de conte qui est assez intéressant parce qu'il y a un axe commun, partagé, et les variantes, la diversité qui se construit autour de cet axe. Donc là aussi, c'est un objet qui est extrêmement important. On pourra y revenir sur le plan même du travail social, après, hein, dans d'autres types de structures. Autre élément, mais là je ne vais pas trop m'attarder, puisqu'il y aura une conférence spécifique là-dessus, c'est la lutte contre l'illettrisme. Les animateurs, aujourd'hui, sont énormément chargés de tout ce qui est les devoirs après classe. On est dans beaucoup de maisons sur de la régulation, hein, sur des problématiques de réinsertion, d'insertion, où cette problématique devient extrêmement importante. Hein. Donc là aussi, c'est un champ un petit peu long. Moi, c'était quelque chose qui m'avait étonné dans ce travail sur l'illettrisme. C'est un jour, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Soudiki Kouyaté. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un comédien qui travaillait avec Peter Brook, très souvent, qui a beaucoup fait de films, d'ailleurs, hein, une espèce de grand bonhomme, qui était griot. Et il est revenu donc, d'Afrique, amené par Peter Brook en France, illettré, analphabète. D'accord ? Trois ans plus tard, il sait écrire, il sait lire le français, l'anglais. On lui dit, mais comment vous faites ? Il dit, moi, je ne connaissais peut-être pas l'écriture, mais depuis l'âge de 3 ans, je travaille sur la langue. Et je sais ce que c'est qu'une langue. Alors, c'est assez intéressant de se poser la problématique, comment quelqu'un qui a une réflexion permanente sur la langue arrive à cette rapidité de compréhension et d'intelligence de l'écrit, alors que quelqu'un qui a illettré la plupart du temps, c'est souvent quelqu'un qui n'a pas de métalangage. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas, qu'il n'a pas les réflexions sur ce qu'est une langue. Donc le conte en lui-même est un outil fabuleux, parce que dans la façon de fonder une littérature orale, ça s'appelle de la littérature orale, on est obligé de réfléchir sur la valeur de la langue et sur la force de la langue. Alors c'est un peu plus complexe, on y reviendra dans le détail sur la conférence qui sera réservée à ça. Voilà. Donc je dirais que tout ça, on est vraiment sur un espace d'une richesse qu'on ne soupçonne pas, qui est extrêmement riche, et on a après la possibilité d'être soi-même fondateur de récits. La tradition en elle-même, c'est bien sûr quelque chose qui existe, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas soi-même composer des espaces de récits légendaires, de contes, voire même des espaces mythiques, pourquoi pas. Donc je vais vous donner un exemple à ce niveau-là que j'avais travaillé sur Béziers. Béziers, c'est un hasard de circonstances. On me demande de faire une enquête, puisque ma première fonction étant ethnologue, on m'a demandé de travailler sur un événement un petit peu folklorique, on va dire, très très encore fort, c'est le chameau de Béziers. C'est-à-dire dans toute la vallée de l'Hérault, il y a ce qu'on appelle des animaux totémiques. Donc il y a l'âne de Gignac, il y a le poulain de Pézenas, etc. Et à Béziers, il y a un chameau. Et ce chameau est associé à un saint qui s'appelle Sainte Aphrodise. Et en général, il y avait toute une manifestation qui se faisait à une période où il y avait de moins en moins de monde. Donc il voulait comprendre un petit peu pourquoi. Bon, ça c'était relativement simple. Mais ce qui avait d'importance, c'est que tout au travail de cette enquête, c'est que je me suis aperçu que le chameau était surtout un représentant et un garant de l'histoire des Biterrois. C'est-à-dire que c'était un emblème, un symbole. C'est-à-dire que quelque part, chaque fois qu'on le sortait, il y avait tout un rituel qui reprenait un petit peu toute l'histoire de cette ville Et les gens le respectaient en fin de compte de plus en plus sur le côté laïque, mais de moins en moins sur le côté religieux. Hein. Donc dès qu'il sortait en relation au saint, plus personne venait, en gros. Dès qu'il était sur le stade pour présenter la ville de Béziers, il était acclamé par le stade, ou quand il était au carnaval, tout le monde le suivait. Hein. Donc il y avait bien un espace où la représentation était encore valide, mais pas sur un espace religieux. Hein. Ensuite, on s'est aperçu, bien sûr, que la validité était là pour qui ? Pour surtout les anciens bitérois. Et que quelque part, si on voulait que ce chameau soit encore emblématique et symbolique de toute la population, ben, il fallait faire un travail d'intégration pour faire en sorte que les jeunes bitérois, que les nouveaux bitérois, que ceux qui arrivaient dans cette ville de Béziers, puissent aussi avoir du sens sur cet emblème-là. Et ça, ce n'était pas facile. Donc on a commencé à faire un travail avec les animateurs. Je ne sais pas où ils en sont, je sais qu'ils ont avancé, mais je ne sais pas encore où ils en sont aujourd'hui, parce que j'ai passé la main à quelqu'un d'autre. Mais en tous les cas, le travail avait été fait sur cette notion de « il y a un légendaire historique, il y a un légendaire contemporain ». Quels sont les espaces légendaires de votre cité ? Et là, on a commencé à faire un travail d'enquête, hein, et on s'est aperçu que les jeunes avaient tous leur légendaire. Une tour qui était fermée, dans laquelle il y avait des dealers, il y avait toute une histoire. La tour était tellement fermée, la tour, qu'on ne pouvait pas y rentrer. Mais, hein, les tout-petits même, qui nous disaient qu'il y avait des femmes araignées dans cette tour. Hein. Chacun avait mis déjà du vide, légende. Le vide, là, on ne va pas rentrer, légende. Des caves, hein, où il se passait des choses absolument fabuleuses. Des trous dans les murs. On a commencé à travailler sur les notions des lieux légendaires qui marquaient le territoire. Où est-ce que vous vous sentez dans votre cité? Où est-ce que vous vous sentez à l'extérieur de la cité? Bizarrement, c'était que des espaces de passage. Les anciennes gares, hein, les réseaux d'eau, les arènes. Hein. On avait plein d'endroits comme ça qui étaient des marqueurs et où tous ils avaient leurs histoires, où tous avaient fondé leur historique. Et là, ça devient intéressant de pouvoir leur dire, vous avez vos histoires, ben dites-les, faites-les savoir, formulez-les, mettez-les en forme, hein. Nourrissez votre communauté au niveau de cet espace-là. Et l'idée, c'était, alors je ne sais pas où ils en sont actuellement, c'est pour ça que... L'idée, c'était qu'ils aillent raconter ces légendes-là, contemporaines, aux anciens porteurs du chameau encore, qui connaissaient les légendes historiques, de manière à ce qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui s'internourrisse. Donc là, on est dans l'intergénérationnel, à la dimension d'une ville importante, qui était celle de Béziers, quand même. Donc là, c'est tous les animateurs, on avait fait la formation avec eux sur ce projet-là. Donc il y a eu des bouts de films qui ont été faits, il y a eu des enregistrements, et ça a monopolisé quand même pas mal de monde. Voilà donc un exemple possible avec légendaire, mais il y en a plein d'autres. Hein. On a construit un travail sur, alors ça peut-être plus dans le domaine rural, sur une petite ville en Lozère qui s'appelle Chastanier, où on a réintégré, on a posé sur la table en gros le plan cadastral. C'est très intéressant, ça s'appelle la microtoponymie. Et on a demandé aux anciens de venir nous expliquer pourquoi les parcelles s'appelaient comme ça. Ou quand on les avait plus de nom, est-ce qu'elles avaient un nom ? Et mine de rien, au bout d'un moment, tout le village s'est monopolisé, hein, pour arriver à re-renseigner ce plan qui avait perdu sens. Hein, les chemins n'avaient plus de nom, les champs n'avaient plus de nom. Hein, tout avait disparu, il n'y avait que des numéros. Voilà. Donc on arrive quelque part, au travers de ça aussi, à redynamiser une mémoire collective. Hein, et c'est un simple travail de mise en relation et de bon questionnaire à terme. Hein. Alors après, je pourrais aller encore beaucoup plus loin, mais je crois passer le temps. Il y a les champs. Énormément de champs sont très intéressants dans la dynamique. Il y a un champ particulièrement qui est très intéressant, ce qu'on appelle le champ à répondre. Parce que le champ à répondre, c'est-à-dire que c'est un champ où quelque part, il y a quelqu'un chante une partie, donc, et le refrain est repris par tout le monde. Hein. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut confier à un enfant, un ado, d'apprendre un chant, mais il sait très bien qu'il ne va pas être seul à le chanter. Il a juste à avoir cette mémoire. Et quand on en a 10 qui travaillent sur le même élément, on peut vraiment avoir une soirée où tout le monde participe, parce que même si on ne connaît pas, on peut être dans la dynamique. Et ça, au niveau de l'énergie corporelle, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Hein, les chants traditionnels, en plus, sont très porteurs, sont très dans la dynamique. Hein. Vous prenez des chants de marins en tant que chants d'éléments à répondre, c'est des chants qui étaient là pour faire bouger le corps. Hein, il y a une dynamique corporelle qui se met en place, extrêmement puissante. On peut travailler le chant, par exemple, pour connaître les métiers. Il y a des chants tout à fait explicites, tous les vieux métiers. Bon, aujourd'hui, des fois, sur le cadre patrimonial, il y a des animateurs qui travaillent sur le champ du patrimoine. On se demande comment essayer de renseigner les métiers. Tous les métiers avaient leur champ corporatif. Vous avez les métiers de scieur de long, vous avez les métiers de colporteur, vous avez toujours des champs traditionnels qui sont comme ça et qui expliquent toutes les phases, hein, qui sont tout à fait intéressants à ce niveau-là. Donc, c'est des façons autres, hein, de changer l'espace. Pareil, comment inventer des champs sur les métiers aujourd'hui? Là aussi, il y a de la composition à faire, mais ça peut être tout à fait intéressant. Autre objet qui, lui, sort un petit peu de la littérature orale, mais qui est quand même toujours dans cette dimension, c'est ce qu'on appelle le récit de vie. Donc là, c'est pareil, on va beaucoup y travailler sur l'anthropologie, puisque c'est un outil de l'anthropologie, mais c'est un espace qui est extrêmement important, et moi, je m'en sers beaucoup avec le troisième âge. En ce moment, il y a un projet qui se joue à Nîmes, sur le CHU de Nîmes, sur Cirque Cavalier. Et l'idée, ça avait été, l'an dernier, ça a été fait comme ça, c'était de demander aux gens de raconter leur métier, puisque c'est très cyclique. Chacun faisait son métier. Donc déjà, on réveille la mémoire. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des conteurs qui se mettent en route avec eux et qui transforment leurs paroles en randonnées. C'est-à-dire que c'est des contes cumulatifs. Donc on refait quelque part un texte travaillé pour qu'ils puissent dire de façon ludique quelque chose de l'ordre de leur métier, de leur parcours. Et on s'est aperçu que c'était très intéressant parce que du coup, à leurs petits-enfants, quand ils venaient, ben, ils leur chantaient la randonnée de leur métier. Mais c'est aussi extrêmement intéressant parce que tout au long du parcours, c'est des personnes qui se sont mises à parler de leur métier, qui se sont en permanence avec les soignants, on a formé les soignants pour qu'ils soient les collecteurs. Mais on aurait pu faire ça avec un groupe d'animateurs, ça serait pareil. Donc on est là, je dirais, dans un éveil de la mémoire. Et la mémoire, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de, par exemple, ouvrir un magnétophone pour que la mémoire s'exprime. Et ça, c'est souvent ce qu'on fait dans les maisons de retraite. C'est extrêmement dangereux. Si la recherche de mémoire est là pour réveiller une nostalgie du c'était mieux quand j'étais jeune, c'est pas le bon truc. Donc déjà, il y a une règle quand on fait du travail sur le récit de vie, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment un projet. C'est-à-dire que est-ce que vous avez un besoin vrai, enfin, même si le projet en lui-même n'est qu'un projet de connaître, de connaissance, on fait une recherche sur quelque chose, vous pouvez nous aider à comprendre cette chose-là. Et la personne qui est dans un état souvent de hors-jeu sociétal, dans cette simple proposition, si elle accepte, se remet dans une construction de projet. Donc là, le récit de vie devient intéressant dans ce sens-là. Mais ça veut dire qu'il faut éviter une chose, c'est de la laisser parler comme ça. Tout simplement parce que dès qu'on sollicite notre mémoire, on sollicite nos éléments émotifs, nos souffrances, nos douleurs. C'est-à-dire que la mémoire, ce qui la marque avant tout, c'est les grands moments, les moments d'émotion. Ce qui structure la mémoire, c'est l'émotion. Donc en général, il faut toujours avoir quelqu'un qui soit dans ce qu'on appelle en enquête semi-directif, c'est-à-dire qui va poser des questions pour aller chercher dans des endroits plus quotidiens, moins de l'émotion. C'est-à-dire qui va réveiller des endroits où la mémoire est encore là, mais là où la mémoire ne s'est jamais exprimée. Et là, il y a un double effet qui devient intéressant en animation avec les gens du troisième âge. Il y a un effet à la fois, bien sûr, du plaisir de transmettre à quelqu'un, mais aussi le fait qu'on puisse fournir des outils de transmission. C'est-à-dire que la personne qui a conçu que dans son quotidien passé, il y a des choses intéressantes, va plus s'appuyer uniquement sur son côté émotif, mais va reconstruire des passages. Ça va lui donner une dynamique pour aller reconstruire une histoire là où, quelque part, elle ne va pas habituellement. Donc, j'en reparlerai un petit peu sur le plan de l'anthropologie, de l'ethnologie. C'est un outil qu'on utilise beaucoup. Et justement, pour l'ethnologue, le pire, c'est d'entendre 10 cours que la personne a rabâché pendant toute sa vie. C'est pas ça qui est intéressant. C'est de lui faire dire ce qu'elle n'a jamais dit, en gros, pas, sans vouloir aller dans l'intime. Mais en tous les cas, aller réveiller des mémoires qui ne se sont pas éveillées depuis très longtemps. Voilà. Donc, ce travail-là, on peut le faire même par des enfants. On parle d'état intergénérationnel, mais il ne faut pas que les enfants partent avec le simple outil « raconte-moi comment c'était quand tu étais jeune ». Ça, c'est mortel. Mais si avec les enfants, on commence à les faire travailler sur un questionnaire, sur une grille, sur une logique d'interrogation, sur un sujet d'interrogation, on ne peut pas tout interroger. Hein. Mais ça peut être très simple, mais en même temps, vous allez voir que ça change radicalement les relations entre l'enfant et la personne âgée. Hein. C'est-à-dire que l'enfant devient quelque part structurateur de la mémoire de celui qui l'interroge. Hein. Et ça change beaucoup, beaucoup de choses. Donc très intéressant à ce niveau-là d'enregistrer, par exemple. On peut faire des collections tout à fait intéressantes et de faire des mini-expositions, de pouvoir retravailler sur un village comme ça dans l'intergénérationnel. Ça peut changer des choses tout à fait de façon intéressante. Alors ça peut être fait avec le passé, mais ça peut être fait aussi avec le présent. C'est-à-dire que les enfants ont une histoire. Il ne faut pas l'oublier. Les enfants ont une mémoire. Et on peut très bien raconter aussi dans ce type de travail les 10 ans d'enfants, des enfants de 10 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils se rappellent, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, comment eux voient le paysage, c'est autant de questionnements intéressants aussi. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à travailler sur la dimension CT. Hein, mais dans cette notion de mémoire, il y a aussi des choses très contemporaines qu'on peut interroger et qui sont très intéressantes au niveau de la dynamique, hein, de l'animation. Voilà, donc je crois qu'au travers de tout ça, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le conte, il est intéressant autant... Et je ne sais pas si vous avez été rendu compte, mais je ne vous ai pas parlé pour l'instant d'écouter des contes. Bien sûr, ça en fait partie. C'est-à-dire écouter des conteurs, écouter des contes, que l'animateur soit lui-même un conteur qui puisse y apprécier des histoires, c'est une dimension. Je dirais que la dimension dans l'animation, pour moi, la plus intéressante, c'est de mettre en position de conteur les gens à animer. C'est-à-dire les rendre acteurs de cette parole-là. Hein. Donc il faut avoir une certaine compétence pour pouvoir suivre, elle n'est pas si complexe pour un travail à minima, on ne fera pas des artistes. Hein. Mais en tous les cas, je peux vous dire qu'il y a eu des festivals d'enfants conteurs et que ça fonctionne très bien et qu'il y a des enfants qui sont des vrais artistes. Hein, ils ont moins de scrupules que nous, donc ils se lâchent plus facilement. Il y en a des outils d'expression artistique absolument fabuleux, hein, mais ça veut dire qu'il faut avoir la confiance en eux aussi. Dernier point, peut-être, puis je pense qu'on ira peut-être plus dans la discussion, la notion de parent-conteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où les parents sont en difficulté de prendre la parole vis-à-vis de leurs enfants. Qu'est-ce que je vais leur dire? Et la plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va lire aux enfants? Alors, c'est très important de lire aux enfants. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas le faire, je dirais même que je l'encouragerais totalement. Mais quelque part, ce n'est pas la même chose quand on lit que quand on raconte. C'est-à-dire quand on lit, on a quelque chose qui est devant nous, on a les yeux qui sont portés sur le texte, et l'enfant n'est pas dupe, il sait très bien que ce n'est pas votre parole qui est en train de surgir. Vous êtes médiateur entre le livre et lui. Il sait très bien que la parole, elle est dans le livre. Hein. Par contre, si vous posez ça et que vous avez intégré un récit, et que vous lui racontez, c'est votre parole, parce que ce n'est plus les mots du livre, c'est votre voix, c'est vos mots habituels. Hein. Et là, il y a quelque chose qui se change, qui devient extrêmement important, qui est radicalement différent. C'est un lieu de la communication directe. Hein. C'est le lieu qu'on trouvait à l'époque dans les berceuses, hein, où cet espace de berceuse qui est quelque part, est surtout fait pour mettre en communication émotionnelle une mère et son enfant, hein, avant le texte même. Hein. C'est vraiment un lieu de la communication émotionnelle. Voilà, donc, dans le travail d'animation, pour moi, il y a cette exploitation possible à différents niveaux. Donc moi je dirais que à terme, le conte peut être mis en place dans plein de possibles. Il y a par exemple ici sur, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'école de nature qui était à Saint-Rabi, qui va changer je crois dans peu de temps sur Alès, où quelque part autour d'un conte, ils avaient monté tout un parcours tout à fait intéressant pour les maternelles. Découverte de la nature au travers d'un conte. Donc c'était un conte, simplement, c'était une sorcière qui avait enlevé un papa chasseur. Et il fallait partir, et là il partait vraiment dans les bois, à la recherche du papa chasseur. Hein. Mais il fallait faire très attention, parce que la sorcière en elle-même, elle laissait des traces, mais il y avait des traces positives ou des traces négatives. Donc il y avait des plantes, par exemple, le phore, qui est un poison violent. Donc il fallait faire attention, il ne fallait pas y toucher, parce que sinon, la course était finie. Il fallait rentrer dans des grottes, il y avait des glands d'une certaine façon. Et au bout de quelques jours de recherche, bien sûr, on leur disait que le papa avait été libéré, c'était bon, mais n'empêche qu'ils connaissaient les plantes Ils connaissaient les parcours, ils connaissaient les endroits, ils avaient expérimenté le terrain, hein, et ils avaient vraiment une intelligence de ce terrain qui était absolument incroyable. Ils étaient presque capables de le cartographier. Grande section de maternelle. Hein. Donc on arrive comme ça sur des projets d'animation à partir d'un conte, qu'il faut que le conte soit valide. Il ne faut pas que ça soit n'importe quoi non plus. Hein. Ça avait été travaillé par Françoise Dieppe à l'époque. Donc, c'est un conte qui avait été composé quand même avec une conteuse à la base. Mais ce conte a vraiment initié des jeunes enfants donc à la nature, on va dire, hein, dans une approche de la nature, au travers de leur imaginaire. Et je crois que c'est un peu en ça que c'est intéressant aussi dans le travail d'animation d'approche de la nature, c'est que le conte ne nous enferme pas dans le rationnel. Le rationnel est extrêmement important, ça je dis une fois de plus, hein, ce n'est pas pour dénigrer le rationnel, mais par exemple, un parcours botanique, vous avez de noms de plantes en latin, je ne sais pas si vous vous rappelez toutes les plantes à la fin, je ne crois pas. Mais si vous faites ce même parcours botanique avec un conteur qui vous raconte la légende des plantes, vous allez voir qu'il y aura sûrement une mémoire ailleurs qui sera mise en place et une sensibilité sur le végétal qui sera très différente. Hein. Donc je crois que c'est de là, c'est des espaces de rencontres qui sont extrêmement importants. Pour moi, on a trop banni dans notre société rationaliste le côté de l'imaginaire, hein, le côté de cet échappatoire qui travaille plus directement l'inconscient. Hein. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'écologie peut-être souffre beaucoup de son rationalisme et peut-être qu'on ne sent pas assez la nécessité d'être dans la nature et avec la nature. Hein. Et les contes nous aident un peu à ça. Les contes nous ramènent dans des positions où, quelque part, les conteurs qui nous ont donné ces contes-là la plupart du temps, ces contes traditionnels, vivaient dans la nature. Ce n'étaient pas des conteurs des villes. Donc, quelque part, il nous redonne une situation où on peut ressentir ce besoin d'être en reliance avec. Voilà. Donc, je pense que la littérature orale, dans ce sens-là, peut être un outil intéressant à différents niveaux, hein, parce qu'on a vu régulation, compte de sagesse, normes, facétieux, etc. C'est un outil à connaître, puisque vraiment, il a été objet d'animation naturelle, on va dire, pour la plupart des sociétés, jusque dans les années 50. Hein. En France, on a perdu le conte avec la perte de la langue patoisante, hein, avec la relation naturelle à la nature. Et donc, on est dans un espace où les contes, aujourd'hui, dans l'urbanisme, ne nous disent plus grand-chose. Mais le répertoire est toujours valide. Et si on s'en occupe un peu, je pense qu'il est largement intéressant dans ce domaine-là. Voilà, bon, ben, je vous laisse maintenant la parole, on va pouvoir échanger. Création de compte.
Voilà.
Je crois que le problème de créer un compte, c'est déjà de bien connaître la structure du compte. On peut pas, le compte n'est pas structuré de n'importe quelle façon. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des objets qui sont, et c'est là où c'est peut-être le plus complexe. Si on veut créer un compte merveilleux, c'est très compliqué. Il faut être vraiment déjà bien armé. Hein. Oui, mais justement, c'est-à-dire quelque part, c'est quelque part, vous allez voir que pour créer un compte collectif, vous avez nécessité d'avoir une structure extrêmement solide sur lequel, et qui est référente pour tout le monde. S'il n'y a pas de structure préalable conçue, votre compte en lui-même ne sera jamais nourri pleinement et ça ne sera pas vivant. C'est pour ça que je vous proposais de travailler dans des veillées comptes avec des structures données et non pas des structures créées. Parce que c'est très compliqué de mettre une structure en place. Et ça, c'est plutôt le travail de l'animateur que le travail, on va dire, de celui qui est à animer. Celui qui est à animer va pouvoir nourrir la structure. Il va pouvoir amener le détail, la vision, hein, l'optique. Mais vous pouvez très bien partir sur un conte traditionnel, quel qu'il soit, vous enlevez tout ce qui est culturel dedans. Hein. Vous gardez que ce qu'on appelle le squelette, le socle. Hein. Vous essayez de trouver un conte qui colle, non pas en miroir, il ne faut pas que ça soit un miroir de ce qu'on voit ou de ce qu'on vit, mais quelque chose qui évoque ce qu'on voit et ce qu'on vit. Je ne sais pas si je me fais bien entendre. Hein. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, un conte comme La Broderie, où au départ, on nous dit que c'est un paysage extrêmement austère, que c'est un paysage difficile, etc., et qu'une mère rêve de rendre ce paysage plus beau, hein, il y a tout un parcours qui va partir de là. Il ne faut pas que ce soit dans un paysage austère qu'on dise ça. Ça colle trop. Mais, au loin, on voit une colline là-bas qui n'est pas évidente, qui va évoquer ça. Hein, même si nous, on est dans l'expérience la plus totale, il y a un support. Il y a un support du regard, il y a un support de la sensibilité. Voilà. Et donc, à partir de là, je dirais que tout le travail, c'est à partir d'une structure que vous allez proposer, c'est de créer des images. Et ça, pour créer un compte collectif, c'est très important de faire des propositions d'images, d'images mentales. Et une fois de plus, une image mentale, ce n'est pas une image à plat, ce n'est pas un tableau, c'est une image en trois dimensions. Et c'est une image qui touche aux cinq sens. Et ça, faites-le, parce qu'on est tous des grands handicapés de quatre sens. Notre monde occidental nous met les yeux avant tout, on est dans un regard. Mais dès qu'on touche au goût, au toucher, même à l'audition, on n'a aucune... vous allez voir, les enfants n'ont aucun vocabulaire pour exprimer ça la plupart du temps. Si pauvres. Hein. Donc ça veut dire que quelque part, dans la structure qui sert de prétexte, vous allez pouvoir mettre, coller des images, des propositions cohérentes hein, qui se mettent en place. Et petit à petit, vous avez le compte collectif qui va se mettre en route. Parce qu'il peut y avoir même des propositions contradictoires, c'est pas grave. Hein. On est, il faut choisir. Bien sûr. Moi, je fais une formation pour les compteurs ici qui s'appelle Randonnée Comptée. On les amène à la nature. Ils ont un compte et il faut qu'ils mettent le compte avec un réseau calcaire, avec un réseau granitique, avec un réseau schisté, avec une rivière, avec une cime. Et chaque fois, le compte, il bouge énormément. Parce que quelque part, bien sûr, si on garde les référents qui sont là, même si c'est pas... ça ne change pas beaucoup le compte en tant que tel, mais ça va changer l'épaisseur du compte. Hein. Et si on commence à travailler dans chaque territoire, non plus sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on entend, sur ce qu'on sent, sur ce qu'on peut goûter, qu'on peut toucher, ce n'est pas la même chose de toucher du schiste et du granit. Il y a une sensibilité, il y a une épaisseur qui se dégage. Et si vous savez travailler les enfants comme ça sur cette sensibilité, au bout d'un moment, les images deviennent magnifiques. On rentre dans une poétique. Ce n'est plus le n'importe quoi. Et surtout, ce n'est plus les images stéréotypées qu'ils ont vues à la télévision. C'est des images qui surgissent de leur imagination directement. Voilà. Parce que je crois que le gros leurre en ce moment, c'est de demander à des enfants de créer sans les aider. Parce que si vous leur demandez ça, ils vont se créer avec les grands stéréotypes qu'ils ont autour d'eux. Il n'y a rien d'eux. Il y a simplement une recomposition des grands stéréotypes autour d'eux. Donc il faut aller rechercher cet espace profond de l'image mentale, c'est-à-dire... et aidez-les, questionnez-les. Vous allez faire une balade ensemble. Ton arbre, il est comment? Vous êtes passé dans une forêt, la forêt, elle est comment? Et vous faites des propositions toujours contradictoires. Vous lui dites, elle est sombre ou elle est lumineuse? Elle est silencieuse ou elle est brillante? Et si vous faites la contradiction, vous êtes en train toujours d'obliger celui qui écoute à être créatif. D'accord? C'est surtout cette notion de la pédagogie du questionnement qui est en jeu. Hein. C'est-à-dire, moi, je dirais que pour être animateur, il ne faudrait jamais avoir, sauf bien sûr dans les directions de cadre, hein, mais dans les espaces créatifs et d'expression, il ne faudrait jamais avoir de propositions fermées. Mais être toujours dans le questionnement. Ce n'est pas dire à quelqu'un, c'est pas bon. C'est, est-ce que tu pourrais faire autrement? D'accord? Ça change beaucoup de choses. Moi, je crois que c'est ça. Mais partez d'une structure solide. Proposez-la, la structure. N'ayez pas peur de la proposer. Hein. C'est là où l'imaginaire... c'est très compliqué d'être à la fois dans le fin de l'observation de la création d'images, tout en pensant à la cohérence globale d'une histoire. Si l'histoire est déjà donnée, vous allez voir que ça change radicalement aussi tout le travail d'observation. On est libéré de la cohérence. On peut travailler sur du détail. On peut travailler sur des petites choses. Hein. Et je crois que moi, la force... de ces récits, elle est dans ce travail de la petite chose, qui va devenir cohérente au bout. Hein. Voilà, mais c'est là que ça se joue. Hein. Oh, si vous voulez travailler sur un grand conte merveilleux, c'est pas compliqué, les structures sont très banales, vous les avez... Il y a une situation initiale, hein, tout va bien. Pas compliqué, au début, tout va bien. Il y a une rupture, votre héros est obligé de partir. Et quand il s'en va, en général, il ne s'en va pas dans le civilisé, il s'en va obligatoirement dans le sauvage. Dans la plupart des contes merveilleux, vous allez voir, c'est jamais dans une ville qu'il part. Hein. C'est dans les bois, c'est dans des grottes, il part toujours dans un espace sauvage. Hein. Et après, il y a trois épreuves, systématiquement. Dans les contes français, en tous les cas, il y a trois épreuves. Quand vous allez vers l'Orient, des fois, il y en a 12, 20. Ils ont plus de temps que nous, hein, ça c'est autre chose. Nous, on est très dans la restriction du temps, donc on a trois épreuves souvent. Et à la fin, il faut qu'il y ait obligatoirement quelque chose qui se rétablisse. Et tous ces contes-là sont dans une optique d'initiation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on découvre des choses au travers de ce récit. Donc déjà, si vous respectez ça, vous allez voir que déjà, ça peut permettre de créer beaucoup de récits. Et on peut aller très loin dans ce champ-là, puisqu'on est dans une composition du symbolique, de par l'observation et par le travail sur le sensitif, vous êtes obligatoirement dans la composition d'un espace symbolique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer quelque chose de définitif. On ne peut que éveiller quelque chose. Donc c'est ça qui est important. C'est-à-dire que le conte n'est jamais fini. Il est par définition polysémique. C'est-à-dire que là, pour un groupe, par exemple, c'est extrêmement important. Parce qu'ils vont apprendre aussi à gérer des images contradictoires. Moi, je vois ça, moi, je vois ça, moi, je vois ça. Ah. Comment on trouve une image qui puisse prendre ça en compte pour quelque part, on soit tous d'accord? C'est une sacrée négociation. Voilà. Mais si vous êtes sur des images trop stéréotypées, tout le monde va être d'accord. C'est ce que tout le monde a vu à la télé, donc il n'y a pas de problème. L'un qui va prendre le bon côté, l'autre mauvais côté. On est des côtés très manichéens. Ce n'est pas l'espace qui peut être extrêmement créatif. Laissez le contradictoire en place. Laissez les choses qui font vibrer. C'est là où ils vont commencer à s'intéresser au conte. Parce qu'il y a des choses qui bougent en eux aussi. Parce qu'il y a des choses qui travaillent en eux aussi. Si on est trop dans le directif, ou dans des choses trop fermées, très, 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 très stéréotypées, c'est extérieur, ce n'est pas intérieur. Donc l'enjeu n'est pas le même. Voilà, donc après, il y a aussi la possibilité de travailler sur des légendes. On pense au conte, mais les légendes pouvaient très bien avoir un lieu bizarre et puis commencer à se dire, avec ce lieu, il s'est peut-être passé quelque chose. Qu'est-ce qui a pu se passer par là? Et on part d'un événement et dans ces cas, on construit comment l'événement a pu arriver jusque-là. Et on refait le parcours pour construire l'événement. Un événement, par exemple... Attention. C'est pas encore l'heure. Vous allez voir si tu vois Gérard. Je suis pas si... Oui, d'en haut, il doit l'avoir. Bon. Tu l'as vu? Non, je pense qu'il va y avoir pour le 21. Le légendaire, en tous les cas, ce qui est important, c'est par exemple si vous avez un puits, une grotte, un élément de cet ordre-là, vous êtes sûr que vous allez pouvoir créer du légendaire. Sans problème. Hein. Une forêt un peu dense. Ça m'occupe. Vous aurez la légende de la conférence sur l'animation à pouvoir créer. J'entends pas trop. J'espère qu'il va trouver parce que sinon. Bon, ça risque rien, hein, c'est pas. On a l'issue de secours qui est juste là. Hein. Faut passer tout droit là. Vous voulez sortir, il faut sortir par là. Bébé, allez-y, allez-y. Vous pouvez sortir par là. Quel numéro de Gérard, hein? Mais oui, mais tu l'as vu. De toute façon, c'est dans tout le bâtiment quand c'est comme ça. Ouais. Bon, je vais aller voir s'ils arrêtent. Vu les conditions, je pense qu'on va arrêter parce que c'est pas possible. À tous les cas, merci. C'était une bonne animation. Celle-là, on la gardera dans les annales.